c'est pénible parce qu'en fait ça a des incidences énormes sur la suite du voyage. Je me considère pris en otage, donc je suis très en colère.
Nouvelle journée de galère dans les gares. Nous allons à Paris-Montparnasse où le droit de retrait perturbe très fortement le trafic aujourd'hui encore.
S'il obtient un vote positif aujourd'hui au Parlement de Londres, Boris Johnson aura probablement réussi son pari. Tractation à prévoir jusqu'à la dernière minute. Nous irons bien sûr dans la capitale britannique.
Nous serons aussi à Barcelone où la soirée a été extrêmement agitée au terme d'une manifestation de 500 000 personnes indépendantistes catalans.
C'est même plus un truc d'indépendance de la Catalogne ou pas, c'est il n'y a plus de démocratie, on revient aux années de Franco.
Et puis vive la cuisine lyonnaise, elle a désormais sa cité de la gastronomie. On ira faire un tour au piano de Paul Bocuse.
Passez une excellente journée à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1.
Encore plus pénalisant qu'une grève pour les voyageurs, ce droit de retrait invoqué par des centaines de conducteurs et de contrôleurs de la SNCF depuis hier matin empêche toute prévision fiable de trafic. Là où la grève est collective et annoncée avec plusieurs jours d'avance, le droit de retrait est individuel.
Ainsi, hormis pour les trains Ouigo qui sont tous annulés purement et simplement aujourd'hui, le trafic est très incertain. En moyenne, un TER sur deux devrait rouler dans presque toutes les régions. Les lignes de TGV sont très diversement affectées.
Rejoignons tout de suite la gare Montparnasse à Paris où nous attend Marion Gauthier en direct pour Europe 1. Marion, on a senti pas mal de tensions dans les gares hier. Visiblement, c'est toujours le cas ce matin.
Oui François, la gare ici est encombrée de centaines de voyageurs silencieux, les yeux rivés sur les panneaux d'affichage. Alvin a vu son Ouigo pour Nantes supprimé à la dernière minute. Ce père de famille attend depuis 6 heures ce matin de pouvoir sauter dans un train pour aller chercher ses enfants.
Là, je me suis un peu battu avec les guichets SNCF pour avoir un autre billet, donc j'ai dû remettre 100 euros pour pouvoir faire mon trajet. Voilà. Et là, je suis en train d'envoyer un message à Ouigo pour pas les insulter, mais presque. C'est pas la première fois que ça arrive et du coup, c'est pénible parce qu'en fait, ça a des incidences énormes sur la suite du voyage et je me considère pris en otage, donc je suis très en colère.
Et au milieu des voyageurs, peu de gilets rouges, peu d'informations, souligne Isabelle. Elle a réservé un Ouigo hier midi, Ouigo annulé hier à 23h. Voilà 2 heures qu'elle attend une autre réservation.
Les messages que l'on a, c'est que la société Ouigo et la société SNCF ne se parlent pas, en fait, sont deux sociétés différentes. Donc en fait, il faut qu'on gère avec Ouigo, uniquement par Internet, les problèmes qui peuvent survenir avec Ouigo. Et avec la SNCF, en fait, si on veut acheter des billets, on doit réacheter des billets à nouveau. Donc ça commence à faire aussi une dépense financière assez importante.
Et c'est l'incertitude générale ici. Tant que la voie n'est pas affichée, chacun imagine ses vacances retardées.
Marion Gauthier en direct de la gare Montparnasse à Paris. Embouteillage sans doute pour ce premier week-end des vacances de la Toussaint qui dure 2 semaines. On croise les doigts si vous prenez la route. La journée est tout de même classée verte par Bison Futé partout en France.
Si on devait comparer la politique britannique au sport, eh bien on pourrait dire que Boris Johnson est à la mi-temps d'un match et que pour l'instant il mène au score.
Oui, le Premier ministre a obtenu un nouvel accord de Brexit avec quelques concessions des Européens, mais il lui faut maintenant une majorité au Parlement de Westminster, convoqué ce matin à 10h30 heure française. Anaïs Cordoba est la correspondante d'Europe 1 à Londres.
Tout va se jouer aujourd'hui à quelques voix. Conscient du poids de chaque vote, Boris Johnson a mené hier 24 heures d'efforts de persuasion. Tous les députés travaillistes et indépendants susceptibles de le soutenir ont été contactés et les conservateurs eurosceptiques indécis ont défilé toute la journée au 10 Downing Street. Selon la presse britannique ce matin, Boris Johnson peut désormais compter sur le soutien de la quasi-totalité des 287 élus conservateurs. 25 indépendants et une dizaine de travaillistes se seraient également rangés derrière lui. Selon ce calcul, il ne lui manquerait qu'une voix pour l'emporter. Mais même s'il gagne, sa victoire pourrait être gâchée. Des députés vont tenter de faire passer un amendement qui imposerait à Boris Johnson de demander un report du Brexit, même si l'accord est approuvé. Ce serait une garantie absolue contre une sortie sans accord, car le processus pourrait encore dérailler avant le 31 octobre. En effet, même si le nouveau deal est approuvé aujourd'hui, il reste plusieurs étapes législatives avant sa ratification définitive. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Et à Barcelone, la soirée d'hier a été redoutable. Des émeutes au terme d'une manifestation colossale.
Les militants indépendantistes toujours mobilisés après la condamnation à des peines de prison de certains des leaders du mouvement d'il y a 2 ans. La police municipale a estimé à 525 000 le nombre de manifestants. Et à la nuit tombée, Henri de Laguérie pour Europe 1 a assisté à des scènes assez chaotiques.
Place à Urquinaona, en plein centre-ville, les agents anti-émeutes tirent avec leurs flashballs pour tenter de faire reculer les séparatistes. Les casseurs leur lancent des pierres, des barres de fer et tout ce qu'ils peuvent trouver sur leur passage. Issus des Black Blocs, les meneurs sont expérimentés, mais la grande majorité sont de très jeunes indépendantistes d'extrême gauche, en colère contre les condamnations bien sûr, mais aussi frustrés de voir que l'indépendance ne vient pas. Victor a quitté la manifestation avant que cela dégénère, il désapprouve les violences.
Je comprends le sentiment, mais je pense que ce n'est pas la façon de faire. Je comprends, je suis en colère aussi, je suis triste, mais je ne brûle pas des choses.
La facture des dégradations s'élève déjà à près de 2 millions d'euros et rien ne semble enrayer la spirale de la violence. Un peu plus tôt, pourtant, dans la journée, une marée humaine avait envahi les rues de Barcelone dans une ambiance pacifique. Parmi eux, Alex, la quarantaine.
Et c'est même plus un truc d'indépendance de la Catalogne ou pas, c'est il n'y a plus de démocratie, on revient aux années de Franco. Je me sens triste, en colère. Depuis lundi, c'est vraiment une frustration ici en Catalogne.
Et à Madrid, le gouvernement socialiste tente de garder son calme et de ne pas prendre de décisions qui pourraient jeter de l'huile sur le feu, alors que la droite réclame une suspension de l'autonomie. Barcelone, Henri de Laguéry, Europe 1.
L'accident avait conduit à l'arrêt des vols de tous les Boeing 737 MAX, le crash d'Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts en mars. Les corps des 10 victimes françaises doivent être rapatriés aujourd'hui. À Paris, une nouvelle manifestation de soutien aux Kurdes est prévue à 15h au départ de la place de la République. Notez aussi que le coordonnateur du pôle antiterroriste du tribunal de Paris alerte contre les risques de sécurité publique en France si on ne rapatrie pas les djihadistes français présents en Syrie. Dans un entretien à l'agence France Presse, il évoque l'instabilité géopolitique de la région et un risque d'attentat de personnes très idéologisées.
La suite du journal de François Geffrier dans un instant avec cette question. Pourquoi Patrick Balkany a-t-il été reconnu coupable de blanchiment mais relaxé pour le volet corruption ? Réponse à suivre.
Europe 1.
Vos infos continuent avec François Geffrier et Bernard Porrette.
François Patrick Balkany, rappelons-le, est en prison depuis 5 semaines et pour l'instant... Bah, il y reste.
Reconnu coupable de blanchiment hier, un peu plus d'un mois après sa première condamnation pour fraude fiscale. Sa femme Isabelle échappe à la prison pour raison de santé. Les deux époux écopent aussi de 10 ans d'inéligibilité. Le récit du jugement avec Salomé Legrand.
Le président a longuement motivé son jugement et si rien n'établit un quelconque pacte de corruption, en revanche, les Balkany sont reconnus coupables de blanchiment de fraude fiscale aggravée, 13 millions d'euros d'avoir dissimulé au fisc en 7 ans, des faits, je cite, d'enrichissement personnel d'autant plus intolérables qu'ils ont été commis durant de nombreuses années et par des élus au suffrage universel censés porter l'intérêt général. Une atteinte à l'ordre public économique qui a privé l'État d'importantes sommes mais surtout estime les juges qui aggrave la déchirure du pacte républicain, même s'ils reconnaissent qu'il ne s'agit pas d'argent public. De la prison ferme, donc, pour les deux époux, Isabelle Balkany échappant au mandat de dépôt en raison de son état de santé. Tous deux sont également condamnés à 10 ans d'inéligibilité et le tribunal a saisi tous leurs biens immobiliers, y compris le moulin de Giverny. Leur fils est, lui, condamné à 6 mois de prison avec sursis. Prochain rendez-vous devant la justice pour Patrick Balkany dès mardi. Il demande sa mise en liberté.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Mobilisation à 14h aujourd'hui à Belfort pour les salariés de General Electric sous la menace d'un plan massif de 800 suppressions d'emplois.
Et à l'heure du petit déjeuner, c'est sûrement le moment de se lécher les babines.
Et pourquoi pas avec la gastronomie lyonnaise. Voilà deux mots qui se marient avec délice. À Lyon ouvre la première cité de la gastronomie avant celle de Dijon, Rungis et Tours. C'est dans l'ancien hôtel Dieu de Lyon que l'on retrouve les fondamentaux de cette cuisine. Pour Europe 1, Jean-Luc Boujon a mis son tablier de petit commis.
La visite démarre précisément avec les grands chefs Bocuse et son immense piano de cuisson rouge sur lequel il a officié durant 25 ans, une tonne et l'obligation de renforcer le sol de l'étage. L'hommage est rendu aussi à la mère brasier et à sa volaille demi-deuil qu'on entend cuire au beurre tout doucement dans une casserole. On sent aussi les fumées, les odeurs par exemple. On tourne une manivelle et un parfum de tarte aux pralines, dessert lyonnais par excellence, vous chatouille les narines. L'espace est donc interactif avec plein d'écrans tactiles pour les enfants qui peuvent apprendre entre autres la qualité nutritionnelle des aliments ou l'intérêt de consommer des produits de saison. Un axe fondamental pour Régis Marcon, 3 étoiles au Michelin dans son restaurant de Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire.
Je pense un peu à nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont manger demain ? Il est important de
de communiquer sur la bonne nutrition. On se nourrit chacun à notre manière, mais c'est important d'expliquer que finalement, cette nutrition nous ramène toujours à la nature. Vous voyez, les produits bruts ne risquent rien. Mais faut savoir que de plus en plus, on absorbe des produits qui sont transformés. On pourra montrer qu'avec quelques euros, on peut se faire un repas bien équilibré.
Voilà, Régis Marcon qui officiera pour ce premier week-end dans la cuisine, installée au dernier étage, une cuisine ouverte avec sa brigade pendant le coup de feu, où le public peut venir voir, toucher, poser des questions et surtout déguster. C'est autorisé et même vivement conseillé. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Et à 8h12, c'est toute l'info sportive sur Europe 1 avec François Geffrier.
François, hier pour la 10e journée de Ligue 1 de football, il n'y avait qu'un match, mais un drôle de match.
Oui, le PSG s'est imposé à Nice 4-1. Le Parisien Di Maria marque deux buts assez vite. Puis le match s'endort un peu. Et à la 74e, le Niçois Cyprien reçoit un deuxième carton jaune, synonyme de rouge. Dans la foulée, Erel écope lui directement d'un carton rouge pour une gifle à l'un de ses adversaires. Bref, Nice joue à 9 contre 11 pendant un quart d'heure et encaisse deux nouveaux buts. Signé Mbappé et Icardi, scénario difficile à avaler pour le milieu de terrain niçois, Pierre Lesmelou.
Je ne vois pas comment avec une faute pour nous, on se retrouve avec deux rouges, mais bon, c'est l'arbitre, c'est lui le patron et il a montré sur le terrain. Donc voilà. Après, à 9 contre 11, surtout contre Paris, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'étais à côté de Willian, je sais très bien ce qu'il a dit.
Enfin, qu'est-ce qu'il a dit justement?
Il a dit, là, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute, là, on est énervé, ce qui est normal. On est à 2-1, on pousse, le public nous pousse aussi. Mais voilà, après, voilà, il y a des arbitres où on ne peut malheureusement pas discuter. J'ai essayé de dialoguer avec lui et il a dit ce soir, j'ai pas envie de parler. Donc on parle pas et il a distribué.
Voilà, il n'y a pas de faute en énervé. Pierre Lesmelou au micro européen de Julien Froment.
6 matchs sont au programme aujourd'hui en Ligue 1.
Lyon-Dijon à 17h30, puis 5 matchs en même temps. Nîmes-Amiens, Toulouse-Lille, Reims-Montpellier, Angers-Brest et Metz-Nantes. C'est à 20h et c'est à suivre dans le multiplex foot d'Europe 1.
Par ailleurs, il est là, il s'avance, il est très redoutable. Je parle du 15 du Poireau qui se dresse devant le 15 de France.
Le Pays de Galles, adversaire des Bleus demain pour leur quart de finale de la Coupe du Monde de rugby. Une équipe qui reste sur un grand chelem au dernier tournoi Destination. Parmi les petits points encourageants pour les Français, le renfort de l'ailier Virimi Vakatawa qui s'est révélé selon son coéquipier Johan Huget.
Il est arrivé à la fin de la prépa sur le dernier match. Tout semblait être bouclé, il a cassé la ligne. Il a été exceptionnel face à l'Argentine. Il adore les duels, il adore franchir, mais il a cette capacité à servir les hommes derrière lui, à faire jouer. Et pour nous, les ailiers, c'est important d'avoir un mec qui a joué à l'aile et qui a basculé au centre parce qu'il sait que ouais, on va pas le lâcher, qu'on sera derrière lui et que s'il perce, on sera là. Et c'est important, mais Viri, il a ses qualités de gestuel qui sont hors du commun quand même.
Johan Huget au micro Europe 1 de Simon Rubin, Pays de Galles, France, demain à 9h15. D'ici là, aujourd'hui, deux autres quarts de finale. Angleterre-Australie, 9h15. Nouvelle-Zélande-Irlande à 12h15.
Superbes affiches, hein, 9h15, 12h15 aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était le journal de 8h, présenté par François Geffrier.